Comment tu dis?
1, 2, 1, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, oui, c'est le 10. 1, 2. C'est le 10. Non.
Ceci c'est le 11, dit Marcel, le 11.
1, 2, oui, oui, c'est tout à fait.
Oui, oui, hein. Donc on est très content, on va commencer bientôt la réunion. Alors nous sommes très heureux de recevoir encore le pasteur Mike Williams. Je ne chanterai pas ce soir parce que j'ai mal à la gorge, Camille a mal à la gorge, Léa a mal à la gorge, donc nous avons un peu tous un petit problème. Donc on va simplement prier de tout notre cœur et puis on passera la... le micro et comment éventuellement oui. Et donc nous allons prier si vous voulez bien, on va incliner les têtes. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous allons prendre un petit moment pour prier si vous voulez bien. Seigneur Père, nous voulons vraiment te remercier parce que tu es ici dans cet endroit en Bad-Villers. Nous te remercions. Là où deux ou trois sont unis en ton nom, tu es au milieu d'eux, et nous croyons que tu veux vraiment nous bénir ce soir. Merci de bénir ta parole sur le cœur du pasteur Mike Williams. Merci Seigneur, parce que tu veux nous enrichir encore ce soir. Que ta bénédiction et ta grâce soient sur chacun de nous. Merci Seigneur de nous aider à discerner les temps de la fin, à comprendre notre responsabilité, Seigneur, et comprendre ton plan qui est au-dessus de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Donne-nous de nous préparer à ta rencontre. Merci, Seigneur, tu cherches un peuple que tu sanctifies, que tu fais vivre à la lumière de ta parole. Tu nous donnes une parole qui révèle ce que tu veux faire, ce que tu vas faire. Et nous te remercions, Seigneur. Parce que indépendamment du plan des hommes, de ce que les hommes veulent faire, toi tu as le dernier mot. Et nous voulons vraiment te remercier pour cela. Tu as toujours le dernier mot et tu cherches par tous les moyens de sauver le plus grand nombre. Merci pour ta patience jusqu'à aujourd'hui et encore dans les jours qui vont suivre. Seigneur, tu reviens bientôt, Seigneur, et nous voulons être prêts. Merci de bénir ton Église. Amen. Je vais maintenant laisser la place au pasteur Michael Williams. Il a mis son micro donc.
Bonsoir à tout le monde. Moi j'ai pas mal à la gorge, mais je tousse. Donc, voilà, je suis content d'être avec vous. Et surtout le sujet de ce soir, après tous ces mois que nous avons passés dans la grande tribulation, ce soir on va être dans le millénium. Donc pour juste très vite récupérer, pour qu'on puisse bien se situer, le monde que nous connaissons galope vers sa fin. n'est-ce pas? Ça, c'est clair. Ces derniers jours, de nouveau des attentats, etc. Toutes des choses, nous avons déjà vu, déjà, qui sont les signes des temps, qui confirment que Jésus revient bientôt. Jésus reviendra d'abord dans les airs, pour enlever son Église. Après quoi, il y aurait une période de 7 ans de grande tribulation, où le monde sera sous le règne de l'Antichrist, du diable en somme. Et comme nous l'avons déjà vu en détail, le diable réussira à soumettre le monde entier à son règne. Le seul parti du monde qui restera, qui échappera à son règne, sera Israël, et surtout la ville de Jérusalem, qu'il voudra à tout prix aussi vaincre. Et pour cela, il amassera toutes les armées du monde entier dans l'immense plaine qui s'appelle la vallée d'Armageddon, où il serait prêt, il aura déjà commencé à vaincre Jérusalem, il serait déjà dans les faubourgs, alors que Jésus reviendra, cette fois-ci pas dans les airs, mais il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, et de là, il partira pour vaincre l'Antichrist et ses armées. Et Jérusalem et le peuple juif sera sauvé. Alors, il prendra sa place comme roi des rois sur son trône à Jérusalem, d'où il régnera pendant 1000 ans physiquement comme le roi du monde. Et c'est surtout cette période de 1000 ans que nous allons regarder ce soir. Cette période a un intérêt, disons, intellectuel, parce que nous allons ensemble lire l'histoire, mais en avance. Donc nous allons lire quelque chose qui va se passer. Et les détails de la parole de Dieu sont assez conséquents. Mais il y a aussi un autre aspect au millénium qui peut nous intéresser encore maintenant, déjà maintenant. Nous ne sommes pas encore dans cette période de 1000 ans, mais il y a cet autre aspect, c'est que le millénium nous montre comment la vie est quand Jésus est le roi. Donc, dans notre vie à nous personnellement, même si physiquement nous sommes encore loin de cette période du millénium, spirituellement nous pouvons déjà goûter des effets, disons, du règne de Christ dans notre vie. Je commence avec le verset 4 ou la fin du verset 4 du chapitre 20 de l'Apocalypse, et nous lisons ceci. Jean dit: je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Qui sont ces gens-là? Les saints de la grande tribulation. Ces gens que Jean a vus, ce sont les saints de la grande tribulation qui ont été martyrisés par l'Antichrist, à cause de leur foi en Jésus et qui vont être ressuscités pour vivre sur la terre avec Jésus pendant 1000 ans. Ils ne seront pas les seuls habitants de la terre en ce temps-là. Nous allons voir un peu plus loin qui seront aussi sur la terre avec eux. Mais parlons d'abord de cette période de 1000 ans, qui sera caractérisée par quoi? D'abord, par la paix. Ce serait un millénium de paix. Le monde n'a jamais connu la paix, n'est-ce pas? Après la Première Guerre mondiale, pour être récent, on a dit, ça c'est la guerre pour finir toutes les guerres, il n'y en aura plus. Et quelques décennies après, on a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et on a fini la Deuxième Guerre mondiale avec plus de 60 millions de morts, beaucoup de destruction mondialement, 2 bombes atomiques, etc., etc. On a dit, maintenant, il n'y aurait plus de guerre. On a créé les Nations Unies pour veiller à ce qu'il n'y ait plus de guerre. Je ne vais pas vous dire que ça n'a pas réussi, n'est-ce pas? Mais pendant la millénium, il n'y aurait plus de guerre. Aujourd'hui, on a des traités de paix. Combien? J'ai lu dernièrement, depuis le temps qu'on compte, les années, dans le Moyen-Âge, on aurait, paraît-il, signé plus de 850 traités de paix. Ça aurait quand même dû apporter la paix, non? 850. En somme, 850 feuilles de papier qui ne valent pas plus que la valeur d'une feuille de papier, parce qu'on ne les a pas respectées. Mais qu'est-ce que dit la Bible dans le millénium? Jésus sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux, et de leurs lances, des serpents. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Une prophétie concernant le Seigneur Jésus. 8 siècles avant sa naissance, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est ça, Jésus. Prince de la paix. Une des dernières choses qu'il a dit à ses disciples juste avant d'être arrêté, je te donne ma paix. Je te laisse ma paix. Pas comme le monde le donne. C'est Jean 14, 27. C'est pas sur l'écran, mais c'est Jean chapitre 14, 27. Pas comme le monde le donne. Non. La paix que le monde donne, au mieux, n'est que très temporaire. Mais la paix que Jésus donne n'est pas seulement la paix entre des nations, mais surtout la paix dans le cœur. Deuxièmement, le millénium sera 1000 ans de joie. Il n'y a pas trop de joie dans le monde aujourd'hui, hein? Si on regarde le journal à la télévision, si on lit les journaux, il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs. Il n'y a pas beaucoup de joie. Mais la Bible dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion. Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Quand Jésus régnera à Jérusalem, son règne sera un règne de joie. les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion, c'est Jérusalem ça, avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Ça, c'est l'accomplissement littéral dans le temps du millénium. Mais déjà maintenant, des enfants de Dieu connaissent quelque chose de cette joie dans notre cœur, n'est-ce pas? Troisièmement, le millénium sera une période de sainteté et de pureté. La sainteté et la pureté sont des notions bibliques très anciennes. Déjà, dans le désert, avec le tabernacle, les notions de sainteté et de pureté se développaient. Mais elles atteindront leur pleine signification pendant le règne de 1000 ans de paix de Jésus. Les restes de Sion, les restes de Jérusalem, seront appelés saints. C'est pas bien ça? On ne s'appellera plus monsieur, madame. Je ne serai plus monsieur Williams, je serai Saint Williams. Hein? Vous rigolez, mais c'est biblique. Hein? C'est mieux que ça. Parce que saint peut être un titre, mais ce n'est pas nécessairement la vérité. Tandis que, à ce moment-là, ce ne sera pas seulement un titre, ce sera surtout une vérité. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Donc, on ne va plus s'excuser. On ne va plus essayer de dire que quelque chose qui n'est pas juste est juste. Comme le fait le monde aujourd'hui, on justifie le péché. Non, ce sera clair entre ce qui est juste et pur et saint et ce qui ne l'est pas. J'habite la Belgique depuis 51 ans. Une de mes tout premiers souvenirs que on m'a dit quand je suis venu en Belgique, quelqu'un m'a dit, chez vous, tout est noir et blanc. En Angleterre, tout est noir et blanc. Mais dans la Belgique, on a beaucoup de gris. Des choses qui ne sont pas tout à fait comme elles devraient être. Je laisse à vous à décider si c'est vrai, oui ou non. Quatrièmement, le millénium de paix sera 1000 ans de justice. Est-ce qu'il y a justice dans le monde aujourd'hui? Pas toujours, hein? Pas toujours. J'ai eu, dans mon ministère, une dizaine d'années pendant lesquelles j'étais, en plus de pasteur, j'étais aumônier de prison à Merksplas, à l'époque la plus grande prison de la Belgique. On avait entre 1300 et 1000 prisonniers, 2000 prisonniers. Et quand on est aumônier, enfin, quand quelqu'un est admis en prison, je ne sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais je parle à l'époque, je parle d'il y a plus de 20 ans, peut-être 30 ans déjà. Un prisonnier qui était arrêté, il devait entre autres déclarer sa religion. Et beaucoup de prisonniers déclaraient qu'ils étaient protestants, à peu près 30%. Alors que combien de la population de la Belgique est protestante? 1%, 1,5%. Conclusion, les protestants sont beaucoup plus criminels. Non, 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 c'est pas ça. C'est parce que les prisonniers avaient compris, c'était surtout les récidivistes qui étaient protestants, pas ceux qui venaient pour la première fois. Parce que le pasteur protestant, après le culte, il distribuait des chocolats et des biscuits et voilà. Tandis que le curé catholique, non. Alors, à peu près 30% de tous les prisonniers qui entraient se déclaraient protestants. Ils n'étaient pas du tout protestants, mais enfin, ils se déclaraient. De ce fait-là, l'aumônier devait les interviewer. Donc, toutes les semaines, j'avais le mardi soir et je me mettais dans un bureau et l'un après l'autre, ils n'étaient pas obligés, mais c'était de coutume. Et pour chaque prisonnier, j'avais une carte jaune avec son nom, date de naissance, encore quelques détails, et ce qu'il avait fait et combien de temps il devait rester en prison. Donc, le prisonnier qui venait, je savais quel crime il avait commis. Figurez-vous qu'au moins 90% de ces cartes n'étaient pas justes. Quand j'interviewais les prisonniers, 90% disaient qu'il n'y avait pas de justice en Belgique. On les avait trouvés coupables alors qu'ils n'avaient rien fait. Hein? 90% hein, n'avaient rien fait. Alors, je ne vous apprends rien si je dis que la justice en Belgique, comme dans tous les pays, n'est pas 100% parfaite. Il me semble qu'il est possible que de temps à autre, quelqu'un qui est innocent soit trouvé coupable. C'est possible, mais pas 90%, n'est-ce pas? Pourtant, 90%, hein? Juste pour la petite anecdote, on avait toutes les semaines un culte. Il y avait dans cette prison, il y avait deux chapelles. Il y avait une chapelle catholique, une chapelle protestante. Jolie, une pièce un peu plus grande que celle-ci, avec des bancs, petit orgue. Et toutes les semaines, on faisait le culte. Et comme il y avait des prisonniers aussi bien francophones que néerlandophones, il fallait faire le culte en deux langues. Donc on chantait en français, on chantait en néerlandais, on priait en français, on priait, etc. Et la prédication, on traduisait. Alors, il était la coutume, à l'époque, de donner aux prisonniers le choix d'un cantique. Et les néerlandophones avaient un cantique préféré. Presque toutes les semaines, il demandait toujours la même cantique, numéro 140, « Je vois une porte grande ouverte. » Ça référait à la porte au ciel, mais eux, ils avaient autre chose en tête. La justice. Mais pendant le millénium, le règne de Jésus sera 100% juste. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Je ne vais pas élargir beaucoup là-dessus ce soir parce que c'est un sujet qui a besoin d'une étude tout à fait à part. Mais on est parfois étonné de lire que Jésus, avec toutes les autres choses qu'il est, qu'il est aussi juge. On sait que Jésus pardonne, qu'il donne la grâce, qu'il est miséricordieux, etc. Mais juge, ça semble un peu dur. S'il n'y a pas de jugement, ce ne serait pas juste, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de jugement, le mal est au même niveau que le bien. Il faut un jugement, il faut qu'il y ait du jugement pour que les choses soient claires. La différence, c'est que le jugement dans le monde, d'habitude, le résultat de ce jugement, et on pourrait même dire le but de ce jugement, ça c'est peut-être discutable, mais le résultat de ce jugement, c'est la condamnation et la punition. N'est-ce pas? Tandis que Jésus qui juge, le but n'est pas condamnation et punition, le but est justement pour corriger et pour établir. Et cela fait une différence entre le jugement du monde et le jugement de Jésus. Si Jésus nous juge, ce n'est pas pour nous condamner, pour nous punir. Au contraire, c'est pour nous corriger, pour nous empêcher, si vous voulez, de descendre encore plus loin dans le mal, et alors de nous rétablir. Ce serait un autre sujet, mais c'est très important de le dire quand même. Quand Jésus pardonne, il rétablit. D'accord? Alors l'Église devrait faire la même chose. Le monde n'est pas comme ça. Les gens dans le monde, ils ont des mémoires comme des éléphants. Hein? Ils savent encore ce que vous avez péché il y a 100 ans. Tandis que la Bible dit que Dieu choisit d'oublier. Il pardonne et avec son pardon, il rétablit. C'est merveilleux. Cinquièmement, le millénium sera une période de connaissance de l'Éternel. Ça, c'est quand même important. Est-ce qu'il est possible de connaître Dieu? Pas seulement de savoir qui il est, ou de savoir beaucoup de faits à son sujet. Connaître, c'est différent. J'ai dû apprendre ça quand j'ai appris le français. En flamand, c'est la même chose. En anglais, nous n'avons qu'un seul mot pour connaître et savoir. C'est le même mot. Et j'ai dû apprendre en français, c'est pas la même chose. Savoir et connaître, ce n'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Je peux savoir qui vous êtes sans vous connaître, n'est-ce pas? Connaître, c'est plus intime, c'est plus profond. C'est une relation plus personnelle. Et il est possible de savoir qui est Dieu, de savoir beaucoup de faits concernant Dieu, sans être chrétien. N'est-ce pas? Je sais une et l'autre chose concernant Mohammed. Je sais l'une et l'autre chose concernant Bouddha. Mais je ne les connais pas. Je n'ai pas tellement envie de les connaître, mais ce n'est pas la même chose. Et un chrétien cherche toujours à mieux connaître Dieu. Nous voulons connaître Dieu mieux que nous le connaissons maintenant. Nous voulons que l'année prochaine, nous ayons plus de connaissances, que notre connaissance soit plus profonde qu'elle n'est maintenant, n'est-ce pas? C'est ça notre désir. Eh bien, dans le temps du millénium, il y aura une connaissance très profonde de l'Éternel. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus des collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venons, Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. C'est le temple à Jérusalem. J'en parlerai de cela d'ici peu. Afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Pas du savoir, mais de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Il y aurait une connaissance de Dieu plus profonde qu'on n'ait jamais connue jusqu'à présent. Sixièmement, il y aura, pendant le millénium, la malédiction sera détruite. Depuis le début de l'humanité, la terre est maudite à cause du péché de l'homme. Nous lisons dans le jardin d'Éden que Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. » Est-ce que c'est vrai ça? J'ai un tout petit jardin. Je ne suis pas jardinier, ça ne m'intéresse pas. Mais j'aime quand même que ce soit un peu propre. Donc, je m'oblige à faire le minimum pour que ça reste quand même un peu propre. Ça explique, je n'achète pas des plantes pour avoir des fleurs. Mais il pousse des choses dans mon jardin que je ne plante pas. Hein? Je les enlève, racines et tout, elles reviennent. Mon petit jardin vit sous la malédiction. C'est la faute d'Adam et Ève. Hein? Si je les vois au ciel, je leur dirai ce que j'en pense. Mais c'est la vérité, n'est-ce pas? Depuis ce moment-là. Et Dieu a dit à Adam, c'est à force de la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. C'est pour ça, frères et sœurs, que nous devons travailler. C'est la faute d'Adam et Ève. Sinon, on ne devrait pas travailler pour gagner son pain. On l'aurait gratuitement. Mais dans le millénium, cette malédiction sera détruite. Il y a des autres suites de la malédiction, n'est-ce pas? Des animaux sauvages, des serpents, des insectes désagréables, etc. Il y a une longue liste. Et pendant le millénium, le loup habitera avec l'agneau. Si vous mettez maintenant loup avec agneau, demain vous n'avez que loup. Loup un peu grossi. N'est-ce pas? Mais dans le millénium, le loup et l'agneau habitera ensemble. Le panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Formidable. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits, un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, la nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sèvrerait mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. Et la gloire du Liban lui sera donnée, et la magnificence du Carmel et de Saron, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Le désert qui va fleurir est une prophétie qui est répétée plusieurs fois dans la parole de Dieu. Et comme nous avons déjà vu plusieurs choses dans le livre de l'Apocalypse qui vont se produire à la fin des temps, certaines de ces choses se préparent déjà. On ne verra leur accomplissement entier que pendant le millénium, mais il y a des choses qui se préparent déjà. Comme certains de vous le savent, j'ai eu le privilège de faire beaucoup de voyages en Israël, un pays, la superficie à peu près grand comme la Belgique, c'est un petit pays, c'est pas la même forme, c'est 500 et des kilomètres de long et maximum 60 de large. Mais à peu près 60% de sa superficie, c'est du désert. C'est pas du sable, ce n'est pas le Sahara, c'est un désert de pierre. Certains m'ont accompagné dans les voyages en Israël, il vous confirmera, ce sont des pierres. Mais c'est très aride, n'est-ce pas? Il n'y pousse rien. Dans une grande partie du désert, une mauvaise année, il pleut deux fois. Vous allez me dire, ils peuvent avoir un peu de notre pluie de la Belgique, on veut le leur donner, hein, on partagera. Une mauvaise année, il pleut deux fois. Donc, il n'y a pas assez de pluie pour supporter la moindre agriculture. Il n'y pousse absolument rien. Vous faites des kilomètres et des kilomètres. Si vous allez à Eilat, vous avez plus de 200 kilomètres de désert. Vous ne voyez pas un arbuste, vous ne voyez pas un arbre, rien de vert, sec. Il y a quelques années, je revenais d'Eilat. Il y avait trois routes pour aller à Eilat. Maintenant, il n'y en a que deux, parce que la route qui longe la frontière égyptienne, à cause du terrorisme, s'est fermée au tourisme. Donc, il n'y a que deux. Mais je revenais d'Eilat et je prenais la route qui passe par ce qu'on appelle la vallée de la Arava. Si vous voulez, si vous voyez sur une carte la mer Morte, et puis en bas vous avez la mer Rouge, et entre les deux c'est la Arava. Et alors il y a une route qui passe par là, et on allait par cette route, désert, c'est tout du désert, il n'y a rien. Seulement, pendant à peu près 30 à 40 kilomètres au nord de l'Eilat, et j'avais fait cette route quelques années auparavant, mais qu'est-ce que j'ai vu maintenant? Les deux côtés de la route, des serres. On dit ça en français, des serres, hein? Verts. Cultivation sous verre. Légumes, fruits, fleurs. Les deux côtés de la route, aussi loin qu'on pouvait voir, deux, trois villages construits pour l'hébergement des ouvriers. Donc, toute une agriculture. Mais il ne pleut pas. Moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas jardinier, mais même moi, je sais qu'une plante qui n'a pas d'eau, il ne va pas vivre longtemps. Alors, arrivé à Jérusalem, le lendemain, je rencontre un ami et je lui demande comment ça se fait que toute cette agriculture, l'eau, d'où? Ah, mais qui me dit, c'est l'accomplissement des prophéties de la Bible. Le désert fleurit, et en effet, le désert fleurit. Et il m'a raconté ceci, et je trouve que c'est quand même intéressant. 1948, Israël devient indépendant. Les Juifs n'étaient pas aimés à l'époque, comme ils ne sont pas aimés maintenant. Un pays moderne a besoin de pétrole. Hein? Tous les pays autour d'Israël nagent dans le pétrole. Mais comme ils étaient juifs, et comme les Arabes leur avaient fait la guerre, ils ne vendaient pas une goutte de pétrole à Israël. Et à l'époque, Israël était obligé d'importer tout leur pétrole de la Venezuela, l'autre côté de la planète, parce que les Arabes ne voulaient pas le vendre. Mais les Israéliens, 1948, se sont dit, tous les pays autour de nous nagent dans le pétrole, il doit y avoir sous notre sol aussi. Alors ils ont commencé à faire des forages partout pour trouver le pétrole. Ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont dû se résigner au fait que chez eux, il n'y en avait pas. 50 ans plus tard, la technologie a beaucoup avancé. Et il était possible maintenant, 50 ans plus tard, de faire des forages, mais beaucoup plus profonds, d'aller jusqu'à un demi-kilomètre. Et alors, ils se sont dit, on va essayer de trouver du pétrole, même si c'est beaucoup plus bas. Et alors, de nouveau, ils ont fait des forages un peu partout dans le pays, et de nouveau, ils n'ont pas trouvé de pétrole. Mais dans la Arava, ils ont trouvé des nappes d'eau. Pas des petites nappes d'eau, des nappes d'eau tellement grandes qu'ils ne savent pas combien d'eau il y a. Au moment que je parlais là à mon ami, et je parle d'il y a peut-être 15 ans déjà, il a dit, les nappes d'eau que nous avons découvertes jusqu'à maintenant, c'est de l'eau qui n'est pas potable. Ce n'est pas vraiment de qualité potable, mais suffisant pour l'irrigation de l'agriculture. Et il dit, nous avons maintenant, que nous avons déjà découvert, que nous savons, nous avons assez de l'eau pour au moins 250 ans. Alors, on pompe. Le soleil dans le désert, comme il ne pleut pas, il n'y a pas de nuages, soleil maximum. Et une plante qui a du soleil et de l'eau, ça fleurit. Alors, déjà, ce n'est pas l'accomplissement complet de ce que la Bible prophétise, mais on voit déjà qu'on va dans cette direction. Ce n'est pas impossible. Puis il a dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, la langue du muet, excusez-moi, éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. On a déjà la preuve que cela est tout à fait possible, n'est-ce pas? Les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, etc. s'ouvrent. Aucun habitant ne dit, je suis malade, merci beaucoup. Aucun habitant ne dit, je suis malade. S'ouvriront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, boiteux sautera comme un cerf, la langue du muet éclatera de joie. Je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Et puis, j'ai une bonne nouvelle pour les pensionnés. Oui, pour les jeunes aussi, mais surtout pour les gens de mon âge. On vivra beaucoup plus longtemps. Ah oui, s'il n'y a plus de maladies. Ceux qui connaissent la Bible, vous vous rappelez qu'au début de la Bible, les gens vivaient longtemps, des centaines d'années. Il y a des scientifiques qui disent, oh, mais ça, il ne faut pas croire que ça est littéral. Il n'y a pas de raison à croire que ce n'était pas littéral. Mais dans le millénium, il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Bonne nouvelle pour nous, mauvaise nouvelle pour le ministère des pensions. Les jeunes maintenant vont devoir travailler jusqu'à 70 ans, il paraît, dans le millénium. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. C'est formidable ça. Oui, mais il y a un mot là-dedans que nous n'aimons pas. Travail. Est-ce qu'on va devoir travailler pendant le millénium? Oui. Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Ça ne va pas se faire automatiquement, donc. Et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura vanné avec la pelle et le vent. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant, je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs, mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans le parvis de mon sanctuaire. Quand on place cela dans le cadre de l'époque, qu'est-ce que vivaient les Juifs très souvent? Qu'ils plantaient et que les ennemis venaient voler leurs produits, leurs vins, leurs fruits, etc. Ça doit être décourageant, n'est-ce pas? On ne voudrait pas travailler si l'ennemi vient toujours voler le produit de son travail. Ils bâtiront les maisons, les habiteront, planteront des vignes et en mangeront les fruits. Bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Les jours de mon peuple sont comme les jours des arbres. Ils ne travailleront pas en vain. Alors, maintenant, qui sont ces îles? Qui vivra sur la terre pendant le millénium? Intéressant. Ceux qui vont donc devoir travailler, entre autres. La Bible le dit. D'abord, comme nous avons vu tout à fait au début ce soir, Jean dit, je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, la première catégorie de ceux qui vont encore être sur la terre pendant le millénium, ce sont les martyrs du millénium, n'est-ce pas? Ceux qui ont résisté à l'Antichrist et qui ont dû payer cela avec leur vie. Les martyrs de la grande tribulation, ceux qui ont refusé d'accepter la marque de la bête et qui donc ont payé cela avec leur vie. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Qu'est-ce qui se passe à la fin du millénium? Nous en parlerons la fois prochaine, Dieu voulant. C'est le dernier jugement, n'est-ce pas? Les autres, donc ceux qui ne se sont pas convertis au Seigneur, ne vivront pas pendant le millénium sur la terre. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc ces gens qui ont été des martyrs pendant la grande tribulation vont ressusciter. Ce n'est pas nous. Chrétiens seront déjà ressuscités quand Jésus revient pour chercher son Église. Il s'agit ici des saints de la grande tribulation. Ils vont être ressuscités. Ils vont vivre sur la terre. Nous, quand nous sommes ressuscités, où est-ce qu'on va vivre? Au ciel. Ceux-ci vont vivre sur la terre, ils vont régner avec Jésus pendant 1000 ans. Deuxièmement, le reste d'Israël sera encore sur la terre. Comme nous avons vu, la dernière chose que fait l'Antichrist, c'est d'essayer de vaincre Israël. Il ne réussira pas. Ça veut dire que le peuple d'Israël, pas tout à fait intact, mais presque, sera encore là quand le millénium commence. Et là aussi, il faudrait toute une série d'études sur le peuple d'Israël pour traiter ce sujet en profondeur. Mais il est clair que depuis que Dieu se soit révélé à Abraham, le peuple d'Israël a une mission spéciale. On ne va pas glorifier le peuple d'Israël pour dire qu'elle est au-dessus de tous les autres, non. Il est vrai que beaucoup de Juifs se croient supérieur aux autres. Mais bibliquement, ça n'a jamais été le cas et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce qu'ils sont spéciaux que Dieu les a choisis. Il les a choisis tout simplement parce qu'il a voulu les choisir. Et en Jésus, nous avons même de meilleures promesses que celles qui ont été donnés à Israël. Israël a été choisi par Dieu pour plusieurs raisons, plusieurs buts. Je ne vais pas entrer dans les détails, ça prendrait beaucoup de temps. Mais il est clair qu'ils ont toujours eu une mission spéciale. Une mission qui aboutira à sa fin maintenant dans le millénium. Beaucoup de choses que les Juifs devaient faire, ils l'ont déjà fait. Par exemple, c'est le peuple d'Israël qui devait donner le Messie au monde. C'est déjà fait. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais pendant le millénium, il est clair que Israël occupe aussi un rôle spécial. Pourquoi? Parce que le centre du monde ne sera pas New York, même pas Bruxelles, mais Jérusalem. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays, c'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'hâterai ces choses en leur temps. Il lèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. Là aussi, il y a toute une liste de promesses et de prophéties qui promettent la même chose. Que les Juifs qui ont été dispersés, ils étaient déjà dispersés au temps de Jésus. Au temps du Nouveau Testament, on estime que la moitié des Juifs n'habitaient plus en Israël. Ils étaient dispersés un peu partout, surtout dans l'Empire romain. On sait par exemple que du temps du Nouveau Testament, il y avait entre 100 et 200 000 Juifs dans la ville d'Alexandrie en Égypte. Donc, quand on sait qu'à Jérusalem, la population était 50 000, ça veut dire que deux ou quatre fois autant étaient dans une seule ville hors d'Israël. Dans l'an 70, les Romains ont détruit le temple à Jérusalem et ils ont détruit la ville. Ils ont défendu des Juifs encore habités à Jérusalem. Dans l'an 35, ils ont défendu aux Juifs d'habiter Israël. Et les Juifs ont été dispersés partout dans le monde. On en a déjà une quinzaine de mille à Anvers. Mais partout où vous allez dans le monde, il y a des Juifs. Et en 1948, Israël redevient un pays indépendant. Donc, dans l'accomplissement de plusieurs prophéties de l'Ancien Testament, un peuple qui avait été dispersé depuis l'an 70 redevient un peuple indépendant. Ça, c'est quand même spécial. Mettons que demain, il est décrété que tous les Belges doivent quitter la Belgique. Moi, c'est pas grave, j'ai de la famille en Angleterre. Je peux aller me loger là-bas. Vous avez peut-être, vous aussi, des amis, des connaissances de la famille autre part. Hein? Oui. Mais mettons que ça arrive. Et que d'ici 19 siècles, 1900 ans plus tard, on dit maintenant, tous les Belges peuvent revenir en Belgique. Vous allez revenir? Vous ne saurez même plus que vous aviez été Belge. N'est-ce pas? Mais les Juifs, miraculeux, reviennent. Déjà, 6,5 millions. La moitié, presque la moitié de la population juive de la terre est déjà revenue en Israël. Ce sont des prophéties qui ne peuvent pas s'accomplir par hasard, ça. C'est Dieu qui l'a prévu et qui veille sur sa parole, et sa parole s'accomplit. Mais Israël est une toute petite nation. Avec les Arabes qui habitent dans le pays, on a 8 millions, donc même pas autant qu'en Belgique. Superficie à peu près, comme j'ai dit tout à l'heure, comme la Belgique. Donc, comparé aux autres nations du monde, ça ne représente pas grand-chose, n'est-ce pas? C'est quand même incroyable, hein? Israël est dans les nouvelles tous les jours. Tous les jours. Comme je suis britannique, je lis les nouvelles britanniques à l'Internet tous les jours. 3-4 fois par an, il y a un article sur la Belgique. Tous les jours, il y a quelque chose sur l'Israël. Il y a 2-3 semaines, les Nations Unies, les pays de l'Europe étaient tellement en colère parce que les Israéliens ont annoncé qu'ils allaient construire 300 nouvelles maisons dans ce qu'on appelle les territoires occupés. Tout le monde, partout dans le monde, on était au courant. Si on décide de construire 300 nouvelles maisons en Belgique, ce n'est même pas dans le journal en Belgique, n'est-ce pas? Ça ne représente rien. Mais quand Israël le fait, c'est la une des journaux. Comment ça se fait? Eh bien, il faut comprendre la prophétie de la Bible. Israël est une nation, comme j'ai dit tout à l'heure, avec une mission spéciale, une mission unique. Et prophétiquement, et parlant d'Israël, le psalmiste s'adresse à Dieu et il dit, « Tu me mets à la tête des nations. » Et déjà, quand Israël quitte l'esclavage de l'Égypte et est prêt à entrer dans la terre promise, une des dernières choses que Moïse leur dit avant de mourir, c'est ceci. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque, et c'est conditionnel, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et mettras en pratique. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que ce n'est pas moi qui le dis, mais les Juifs qui le disent eux-mêmes. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'an 70, les Romains viennent et détruisent Jérusalem, détruisent le temple, expulsent les Juifs de leur ville, et plus tard de leur pays. Les Juifs qui survivent, dispersés maintenant dans d'autres pays, vous comprenez bien, ils se posent des questions. Comment ça se fait que notre Dieu nous fait ça? N'oublions pas que les Juifs, ils adorent le même Dieu que nous. C'est le même Dieu que nous, mais ils ont une autre idée de Dieu que nous. Nous, notre idée de Dieu, c'est que Dieu est le Dieu de tout le monde, de tous les peuples. Pour les Juifs, non, Dieu est notre Dieu à nous. Les autres peuples, s'ils veulent l'adorer, ça c'est leur affaire, mais Dieu, l'Éternel, il est à nous. Les Juifs ont toujours été comme ça, ils sont comme ça aujourd'hui. Alors, les Juifs qui ont vu leur temple, leur pays, leur ville de Jérusalem, dévastée par les Romains. Et Dieu n'a pas levé le petit doigt pour l'empêcher. Vous comprenez bien qu'ils se mettent en question. Comment ça se fait que notre Dieu, nous, il est notre Dieu à nous, il permette cela? Et des rabbins, d'abord, paraît-il, qui ont fui et qui se sont établis en Galilée, mais plus c'est répandu généralement, ils se sont dit, c'est pas moi qui les accuse, c'est eux-mêmes qui l'ont dit, en somme c'est notre propre faute. Et pourquoi? Parce que nous ne sommes pas restés fidèles au commandement, nous ne sommes pas restés fidèles à notre Dieu, c'est pour ça qu'il a laissé passer ce qui s'est passé, comme Moïse nous avait prévenu. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent eux-mêmes. Et vous comprenez bien, j'essaie très vite de suivre quelque chose qui s'est développé au fil des années. Donc leur première conclusion est, c'est notre propre faute que cela nous est arrivé. Alors, en ce moment-là, on est triste, n'est-ce pas? On est découragé. Quand on est découragé, qu'est-ce qu'on fait? On cherche quelque chose pour s'encourager. On ne veut pas rester triste. Et alors les Juifs, si, les Juifs, c'est le peuple de la Bible, n'est-ce pas? Le livre, le peuple de la parole de Dieu. Alors, automatiquement, comme ils l'ont fait quand ils étaient exilés en Babylone, maintenant dispersés partout dans le monde, ils retournent dans leur livre pour voir s'ils peuvent trouver des paroles d'encouragement. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Des prophéties qui disent que même si vous avez été désobéissant et par conséquence vous avez été dispersé, si vous revenez à l'Éternel, Dieu vous pardonnera et il vous rétablira et vous redeviendrez un pays indépendant. Je résume tout un tas de prophéties. Il faudrait lire beaucoup de versets pour arriver à cette conclusion, mais ceux qui connaissent la Bible, vous me donnez raison. C'est ça que Dieu, qu'ils trouvent ça dans leur parole. Et ça permet aux Juifs, quand on a de l'espoir, je ne sais pas si on dit ça en français, on dit en flamand, l'espoir fait vivre. Hein? Quand on a l'espoir, même si c'est lointain, ça fait vivre. Et ça fait que ce peuple, pendant tous ces siècles, à ce moment-là, ils n'ont pas compris que ça allait durer si longtemps, mais ça fait que ce peuple, pendant tous ces siècles, ils ont eu de l'espoir. Et leur prière, pendant tous ces siècles, leur prière était l'année prochaine à Jérusalem. Et en 48 du siècle passé, cette prière a été exaucée. Le prophète Jérémie parle de ce millénium. Il dit ceci. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Sur toi l'Éternel se lève, sur toi la gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian. Ceux qui ont été en Israël, je vous demande, c'est un pays prospère ou pas? Ils nous ont déjà dépassés. Ils nous ont déjà dépassés. Quand ils sont devenus un peuple indépendant en 48, il n'y avait rien en Israël. C'était pauvre. Il n'y avait pas d'infrastructure, rien. Eux, en 70 ans, ils ont achevé ce que l'Europe a mis 7 siècles pour faire. Et cela, pendant des décennies, où ils ont dépensé à peu près la moitié de leur produit national brut sur la sécurité et la défense. La Belgique ne dépense même pas 3%. C'est incroyable de voir comment ce pays s'est développé. Je vais lire quelques versets en plus. Et dans ces versets, dans le texte de la Bible, il y a des noms de pays et de régions comme ils étaient appelés à l'époque. Je vais le lire et je vais remplacer ces noms par les noms de pays et de régions que nous connaissons aujourd'hui. Hein? Vous comprenez ce que je fais? Je ne change pas la parole de Dieu, mais pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Donc, ils viendront tous de l'Éthiopie. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de la territoire entre l'Euphrate et la mer Morte se réuniront tous chez toi. Les béliers du désert à l'est de la mer Morte seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi. Et les navires de l'Espagne sont en tête pour amener de loin tes enfants avec leur argent et leur or. Certains pensent que ce n'est pas l'Espagne, mais que c'est Grande-Bretagne. Je vous dis ça en passant. À cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie, les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, leurs rois serviront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et les rois avec leur suite. Chaque ville avait des portes qu'on fermait au coucher du soleil, n'est-ce pas, pour empêcher que les ennemis pénètrent dans leur ville. Comme ce serait un millénium de paix, on peut laisser les portes ouvertes jour et nuit. On parlera de cela un peu plus la fois prochaine. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le bi, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils s'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël, au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le Puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain, et au lieu des pierres, du fer, et je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom du salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire, ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'hâterai ces choses en leur temps. Israël régnera à ce moment-là, pendant le millénium, sur l'entièreté de la territoire qui leur a été promis. Ça n'a jamais été le cas. Quand Dieu fait alliance avec Abraham, il lui dit, « Je donne ce pays à ta postérité. » Depuis le fleuve d'Égypte, c'est probablement le Nil, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, ça c'est en Irak aujourd'hui. Il est clair que même si l'influence de David et encore plus de Salomon, s'étendaient jusqu'à l'Euphrate. Ils n'ont jamais régné sur ces pays-là. Alors l'Israël va être beaucoup plus grand. Donc nous avons ceux qui survivent, ceux qui sont martyrisés dans la grande tribulation. Nous avons les Juifs. Troisièmement, nous avons des païens qui survivent l'Armageddon. Là, il y a même peut-être des Belges, n'est-ce pas? Pas tout le monde sera tué. Nous avons lu, si on fait le somme des plaies de la grande tribulation, on arrive quelque part à entre 2/3 et 3/4 de la population du monde à l'époque de la grande tribulation qui va mourir. Aujourd'hui, la population du monde est combien? 6 milliards? 7 milliards 500 millions. Donc, si la grande tribulation devrait commencer demain, d'ici 7 ans, il y a seulement entre 2/3 et 3/4 de ces 7 milliards et demi qui restent en vie. Mais c'est déjà encore quelques centaines de milliards, de millions, n'est-ce pas? La planète n'est pas tout à fait vidée. Donc, des païens qui survivent Armageddon, qui survivent la grande tribulation. Et la Bible dit, en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays de l'Égypte. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées, un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. N'oublions pas que pour les Juifs, les Égyptiens n'ont pas une bonne réputation. Ils ont soumis Israël pendant 4 siècles à l'esclavage. Et ce ne sont pas leurs plus grands amis jusqu'à aujourd'hui. Les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, les frappera, mais il les guérira. Ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. En même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Assyrie, c'est la Syrie, une partie de la Jordanie, Irak, aujourd'hui, ces pays-là. Les Assyriens iront en Égypte, les Égyptiens en Assyrie, les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains. » La Syrie était aussi un oppresseur d'Israël. C'est la Syrie qui les a vaincus en 721 avant Jésus-Christ et a emporté 10 des 12 tribus. L'Éternel les bénira. Disons, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées en ces jours-là. 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif sur le pan de son vêtement et diront, « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Le roi des rois lui-même régnera à Jérusalem, et les peuples du monde y viendront pour l'adorer. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Mais je vais me répéter si je dis tout cela. Dans les notes imprimées, il y a encore un tas de versets bibliques que j'ai donnés qui plus ou moins répètent ce que nous avons déjà lu ce soir. Terminons avec cette pensée-ci. Il y aura pendant le millénium un temple à Jérusalem. Le même temple que le temple que nous avons vu pendant la grande tribulation? Probablement. Probablement. Des textes que nous avons déjà lus là-dessus, le prophète Ézéchiel décrit ce temple en détail. Il faudrait lire, si vous voulez avoir tous les détails, les chapitres 43 à 48. Je ne vais pas les lire ce soir. Mais là, on donne des dimensions. Je lis deux versets seulement. « Toi, fils de l'homme, c'est Dieu qui parle au prophète Ézéchiel, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan. Fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues, ses entrées, tous ses desseins, toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois. Mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses desseins et toutes ses ordonnances et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. » Un temple. Qu'est-ce qui se passera dans ce temple? Pendant la grande tribulation, nous avons vu que les Juifs ont recommencé avec des holocaustes. Est-ce que dans le millénium, toutes ces nations vont venir avec des holocaustes? Les holocaustes servaient surtout à payer pour les péchés. Avec Jésus, on n'a plus besoin de payer pour les péchés parce que lui a tout payé. Et comme il sera visiblement roi des rois à Jérusalem, ce serait encore plus clair pour le monde que maintenant. L'Épître aux Hébreux dit ceci. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Une ombre de ce qui devait venir. Quand Jésus est venu, Jean-Baptiste déjà, au début de son ministère, l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et dans la fin des temps, on n'aura pas des holocaustes pour les péchés. Ce seront des sacrifices de louange et d'adoration. Amen. Il y a encore des versets là-dessus, mais j'avais dit que je terminais, alors je termine. Je peux continuer jusqu'à minuit. Merci de votre attention.
Le quatrième vendredi du mois d'avril.